哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
哒哒哒哒哒哒哒哒Une émission proposée et réalisée par le collectif Palestine 12.
Le mardi 18 mars, dans la salle de conférence du CREA, nous recevions le professeur de médecine et chirurgien Christophe Oberlin, qui a une bonne connaissance de la situation sociale et politique à Gaza, et notamment de la principale force qu'est le Hamas. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont il nous a entretenus. Il est aussi traducteur de plusieurs livres. Nous vous donnons donc à écouter de larges extraits de son intervention.
Dès que j'ai commencé à aller à Gaza, j'y suis allé une cinquantaine de fois. J'ai éprouvé très vite le besoin. D'abord, on m'a invité, comme ce soir, d'en parler. Alors au début, je me disais, mais qu'est-ce que je vais raconter ? Il y a des journalistes qui sont là pour ça. Et puis en fait, vous savez qu'on a... voilà, il y a un biais d'information. Jusqu'aujourd'hui, il y a un étranglement des médias. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux. Mais moi, quand j'ai commencé à aller là-bas, la première fois, c'était en décembre 2001, il n'y avait pas de réseaux sociaux. J'ai été très surpris de voir le décalage extraordinaire qu'il y avait entre l'information qui était donnée et puis tout simplement la vie du terrain et l'expression des gens que je rencontrais. Le premier livre que j'ai fait, c'est... je me suis dit, je vais faire la biographie d'un Palestinien. Et j'ai fait la biographie de mon ami Mohamed Rantissi, chirurgien, qui est toujours à Gaza, qui est sous les tentes en plastique au sud, comme tout le monde, qui a déménagé cette fois depuis un an et demi, et qui aujourd'hui bien, essaye d'aller rendre service, opérer à droite à gauche dans les structures chirurgicales qui redémarrent régulièrement après les destructions que vous connaissez. Donc des informations du terrain, vous le savez, aujourd'hui, on en a directement. J'ai la main là parce que j'ai mon téléphone, mais j'ai une dizaine de messages depuis ce matin. J'avais proposé un certain nombre de fois à des réalisateurs de télévision en disant, vous savez, il y a un sujet à faire, parce que personne ne pense que ça existe, c'est le sujet des chrétiens de Gaza. Vous avez à la fois des chrétiens là-bas, tout le monde pense qu'ils sont partis ou qu'on leur a coupé la tête, et vous avez en même temps des locaux assez extraordinaires, des monuments, et en particulier, vous avez un monument dont la destruction partielle, mais très sévère quand même, a beaucoup touché depuis le 7 octobre, c'est la mosquée Al-Oumari. La mosquée Al-Oumari, c'était, et j'espère que ce sera, parce qu'il faudra bien la reconstruire un jour, on peut tout reconstruire, eh bien, la mosquée Al-Oumari était un monument exceptionnel et aussi, en même temps, un symbole exceptionnel. Ça se passe sur la colline de Gaza, la petite surélévation sur laquelle est construite la ville de Gaza, et au sommet des collines, vous le savez, c'est toujours été le lieu de culte, même les cultes les plus anciens. Et sur la colline de Gaza, il y avait un temple dédié à Marnas, le dieu de la pluie du temps du polythéisme. Et puis, ce temple a été transformé en une église à un moment de l'expansion byzantine au 3e, 4e siècle. Et puis cette église a été transformée en mosquée. Et ça, c'est le point important de l'histoire. Eh bien, c'est qu'à l'arrivée de l'islam, donc au 7e siècle, l'église a été transformée en mosquée, mais selon le pacte omarien, c'est-à-dire que le calife Omar, eh bien, avait décidé qu'on allait diviser les lieux de culte dans les régions où s'étendait l'islam. Et Gaza en a été un exemple. Vous savez que, par exemple, à Jérusalem, la mosquée d'Omar a été construite à côté parce que, eh bien, Omar n'a pas voulu aller prier dans le lieu de culte chrétien pour ne pas froisser un culte existant. Et il s'est passé la même chose à Gaza. Et donc, nous avons une église qui est devenue une mosquée. Et puis, l'arrivée des croisés a à nouveau transformé cette mosquée en église. À ce moment-là, l'église a été transformée, reconstruite, réhabilitée, étendue. Eh bien, c'est une église qui ressemble aux églises de Bourgogne de l'époque du XIIe siècle. Vous avez une église bourguignonne au cœur de Gaza. Et au départ des croisés, eh bien, cette église est redevenue une mosquée jusqu'à aujourd'hui. Et c'était la mosquée la plus ancienne et la plus riche et la plus belle de Gaza. C'était une église. Vous voyez, on avait simplement retiré les bancs et on priait en oblique puisque la direction de la Mecque n'était pas celle de l'église. Vous voyez. Et donc, cette mosquée à Loumari, c'est un symbole extraordinaire de la cohabitation entre chrétiens et musulmans dont nous devrions vraiment nous inspirer. Et ce n'est pas simplement des mots, simplement en observant, eh bien, en observant le nombre de pratiquants, eh bien, les chrétiens sont restés majoritaires dans la bande de Gaza jusqu'aux croisades, c'est-à-dire pendant 5 siècles. Pendant 5 siècles après l'arrivée de l'islam à Gaza, les chrétiens sont restés majoritaires. Vous voyez. Donc, quand on nous parle des massacres par les musulmans, des chrétiens et tout ça, il y a eu quelques massacres, effectivement. Il y a eu le sultan Al-Hakim qui, à son époque, n'a pas été très sympathique. Mais globalement, Gaza, parmi les très nombreux exemples dont on pourrait tirer des leçons, eh bien, c'est cette formidable cohabitation entre chrétiens et musulmans qui dure jusqu'à aujourd'hui, même si les chrétiens aujourd'hui sont extrêmement minoritaires. Et ils sont extrêmement minoritaires pour des raisons qui sont liées notamment au siège. Si vous observez dans ce livre, j'ai interviewé un certain nombre de chrétiens, eh bien, ils rêvent d'émigrer. Mais pourquoi? Ah ben parce qu'ici, on est tellement peu nombreux qu'on ne trouve même plus à se marier. Et alors, je vous pose la question, à votre avis, quel est le principal lieu d'émigration ou de souhait d'émigration des chrétiens de Gaza? À votre avis, dans quel pays ils souhaitent aller? Levez la main ceux qui ont une idée, ou dites n'importe quoi, peut-être que ça va tomber juste, je ne sais pas. À votre avis, les chrétiens de Gaza, ils veulent aller où? En Italie, qui d'autre? Ah, vous rapprochez un peu, qui d'autre? En Syrie? Ailleurs, en Palestine, exactement. Ils veulent aller en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, eh bien, vous avez des villages où il y a encore 40% de chrétiens. Et pour trouver eh bien, un conjoint ou une conjointe, c'est beaucoup plus facile d'aller là-bas. Voilà. Depuis 2006, où on a vu la victoire d'un mouvement électoral islamiste, hein, c'est-à-dire partisan de l'islam politique, eh bien, avec la victoire, après la victoire de 2006, je me suis intéressé de plus en plus au mouvement du Hamas. Et ça fait depuis 1 an et demi que je fais des conférences où je fais la promotion du Hamas. Je ne suis toujours pas été en garde à vue. Mon ami François Bourga me dit que je suis jaloux de lui parce que lui a été en garde à vue. Bon. Et donc, ce mouvement Hamas est un mouvement qui mérite d'être connu. Et j'ai commencé à voir des épisodes importants, à relever des épisodes importants dans l'histoire de ce mouvement à propos de deux faits. Le premier, c'est lorsque mon ami Mohamed Rantissi me présentait à un doyen, un ministre, une personne, un responsable dans l'administration. Il me disait qu'il est allé, comme mon frère Abdelaziz, il a été expulsé à Marjezour. Alors je me disais, qu'est-ce que c'est que Marjezour? Et j'ai découvert cet épisode, qui est un épisode extrêmement important de l'histoire du Hamas. Ça se passe, qui connaît l'épisode de Marjezour? Levez la main. 1, 2, oui, je vois mes fidèles lecteurs. Donc, voilà, ok, donc on peut continuer à en parler. Eh bien, au moment où Isaac Rabin négociait les accords d'Oslo avec Arafat, il y avait les accords, les discussions officielles à Madrid, les discussions d'Oslo en dessous, et Rabin s'est dit, bon, ben, je vais quand même récupérer les leaders ou les responsables ou les militants du Hamas les plus actifs, et puis je vais les déporter au Liban, comme ça, ça fera 400 familles en moins, et puis un peu moins de contestation dans le pays. Et donc, il a effectivement raflé 400 membres du Hamas, quelques-uns du djihad islamique, et il les a balancés au Liban, dans la neige, l'hiver, en altitude, dans le froid. Et le coup de génie, si vous voulez, et là, j'ai eu des entretiens avec nombre des anciens de Marjezour, donc en particulier de Marc Mouzar, qui était à l'époque le porte-parole des déportés, eh bien, ils ont refusé d'entrer au Liban. Ils se sont ressés sur la frontière. Ils ont dit, on bouge pas. Ils se sont les uns contre les autres. Ils se sont fait tirer dessus. Il y a des blessés, mais ils n'ont pas bougé. Moyennant quoi, la Croix-Rouge est arrivée, les voisins, les paysans du coin. Et ils ont fait un buzz parce que les premiers journalistes sont arrivés. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y a pas tout ça. Mais ça a été un buzz. À l'époque, lorsque vous déportiez 400 personnes sans charge ni jugement, de manière définitive, comme ça, l'ONU votait dans les 24 heures une résolution pour condamner. Le monde entier s'est senti contraint. Et donc, ça a été un buzz formidable. Les déportés sont restés pendant une année là, en refusant de se disperser dans le monde arabe, comme le souhaitait Isaac Rabin. Et ils ont fait un travail collectif de construction de leur mouvement. Le mouvement existait depuis 5 ans déjà, mais ils ont véritablement travaillé leur philosophie, leurs questions, leur programme politique, leur vision sociétale. Et finalement, ça a été exactement l'inverse de ce que souhaitait Rabin. Ça a été un petit peu comme d'ailleurs dans les prisons israéliennes. Eh bien, il y a eu un brainstorming, il y a eu l'élaboration d'un programme. Et ça a été le moment où véritablement le Hamas a accédé à la notoriété internationale avec des journalistes qui sont venus du monde entier et puis plein de gens, tous les gens amoureux de liberté qui allaient rendre visite aux déportés à Marjezour. Vous auriez pu y aller. Et donc, ça a été un éclairage absolument extraordinaire sur le mouvement. C'est là, en particulier, qu'ils ont élaboré leur politique étrangère. C'est-à-dire que ce mouvement, qui est encore pour certains classé comme mouvement terroriste, eh bien, s'est dit, bon, il faut, maintenant qu'on a l'accès à la notoriété internationale, il faut qu'on tisse des relations avec un certain nombre de pays que potentiellement amis. Et ils ont élaboré toute une politique étrangère qui est plus que résumée. C'est un très bon livre, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais je l'ai traduit en français. C'est le livre de Daoud Abdullah sur la politique étrangère du Hamas, l'histoire de la politique étrangère. Et ils ont développé des relations avec des pays dont ils se disaient qu'ils seraient peut-être plus sensibles que d'autres à la cause palestinienne, en particulier la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud. Vous voyez, ça, ce sont trois noms de pays qui ont une résonance particulière en ce moment. Puisque vous vous souvenez qu'après le 7 octobre, il y a eu une première puis une deuxième résolution pour le Conseil de sécurité proposée par les Américains et dont le contenu était tout à fait défavorable aux Palestiniens. Et c'est la Russie et la Chine qui ont émis leur droit de veto. Donc vous voyez, un mouvement qui existe maintenant depuis 1987, un mouvement de libération nationale, qui bénéficie de l'appui jusqu'au niveau du droit de veto de 2 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et puis, vous savez que, encore mieux, eh bien, dans le cadre de la Convention internationale pour la prévention du génocide, quel est le pays ami qui a sollicité la Cour internationale de justice, a fait part de son désaccord avec la politique israélienne? C'est l'Afrique du Sud. Et vous savez que jusqu'à aujourd'hui, la politique de l'Afrique du Sud, la politique juridique, est formidable. Et finalement, alors que l'Afrique, d'une façon générale, paradoxalement, était un petit peu la cible des premières actions de la Cour pénale internationale, comme le disait mon ami Gilles Devers, malheureusement décédé, eh bien, finalement, le droit international, finalement, d'où il vient en ce moment, eh bien, il vient de l'Afrique, voyez. Donc, c'est un retournement de situation qui est tout à fait positif. Toute une série de personnages sont sortis de ce séminaire de formation qu'a constitué Margezour. Et puis, le deuxième série de dirigeants historiques, eh bien, c'est ceux qui ont été libérés lors de l'échange de 2011. J'avais décidé de faire un livre sur les prisonniers. Je me dis, qu'est-ce que je vais prendre comme fil précis pour parler des prisonniers? Je ne vais pas simplement interviewer les uns ou les autres. J'ai pris l'exemple de l'échange contre le soldat Chalid, enlevé en 2006, capturé en 2006, libéré en 2011, avec une très longue négociation. Et j'ai pu bénéficier du récit du principal négociateur du côté palestinien, qui était Mahmoud Zahar, qui était ministre des Affaires étrangères, et qui m'a raconté par le menu, c'est dans ce petit bouquin qui s'appelle « L'échange », comment on procède à un échange de prisonniers. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès le 8 octobre, je savais très bien que tous les prisonniers ne seraient pas libérés d'un coup, que ce serait l'affaire d'une longue négociation, puisque, à moins de supposer dans l'idéal qu'Israël accepte de libérer tous les prisonniers palestiniens, à ce moment-là, on pourrait libérer tous les prisonniers israéliens. Mais comme ce n'est malheureusement pas le cas, eh bien, chaque nom doit être discuté, chaque nom est proposé. L'échange de prisonniers est quelque chose qui n'est pas nouveau. Il y a eu par le passé toute une série d'échanges avec parfois plus de 1000 prisonniers qui ont été échangés. Et l'un des trois objectifs des Palestiniens lors de l'offensive du 7 octobre était justement de réaliser un échange de prisonniers. On se rend compte quand on vit dans la société palestinienne, eh bien, que toutes les familles sont impactées, toutes sans exception. De la même façon qu'aujourd'hui, toutes les familles sans exception sont impactées par le génocide, ont été touchées de près ou de loin. Toutes les familles sont touchées par le problème lancinant de ces gens qui sont enfermés, dont on ne sait pas quand ils sortiront, si même ils sortiront jamais. Et c'est en particulier au cours de ces échanges que le Hamas a mis au point sa doctrine d'échange de prisonniers, en privilégiant, comme toujours, premièrement les femmes et les enfants, deuxièmement les prisonniers de longue peine, troisièmement les prisonniers âgés et quatrièmement les prisonniers malades. Alors, en dehors de tout ça, je me suis intéressé beaucoup avec mon ami Gilles Devers, maître Gilles Devers, un avocat d'un talent inouï, qui malheureusement a disparu récemment. Je me suis intéressé très vite à la question juridique, parce qu'évidemment, quand vous voyez défiler des blessés sur votre table d'opération, vous posez la question du comment, du pourquoi, comment se fait-il que. Et donc, l'aspect juridique, tout de suite, vous saute aux yeux. Et là encore, par Gilles Devers, qui a été un avocat infatigable et extrêmement talentueux, eh bien, on peut dire que toutes les actions juridiques ou presque qui sont parties des Palestiniens sont partis initialement de la bande de Gaza et avec l'autorisation et puis très rapidement à l'incitation du mouvement Hamas et notamment depuis 2006 qu'il gouverne la bande de Gaza. Donc là encore, vous voyez ce groupe classé par certains terroristes qui a des appuis internationaux indiscutables, qui réclame l'application du droit international, application intégrale, parce que les Palestiniens que je connais et que j'ai contribué très modestement à stimuler, étant moi-même stimulé et formé par Gilles Devers, pour vous donner simplement un exemple pour résumer, lorsque j'ai commencé à parler du droit à Mahmoud Zahar il y a maintenant une quinzaine d'années, il me disait, le droit international, vous savez, nous, on n'y croit pas. On n'y croit pas, c'est un droit qui a été construit, hein, c'est la formule classique par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale pour opprimer les pays du Sud. Voilà, ce n'est pas pour nous. Et puis 15 ans après, le même Mahmoud Zahar, eh bien, je l'ai vu responsable du Legal Committee, c'est-à-dire du comité légal du Hamas, vous voyez. Et j'ai vu défiler devant moi, modeste chirurgien, toute une série de ministres de la justice ou anciens ministres de la justice, des professeurs de droit, auxquels j'expliquais tout l'intérêt qu'il y aurait à solliciter, à mettre en branle les rouages de la Cour pénale internationale, et qui n'y croyaient pas. Et en fait, c'est grâce à Gilles Devers que le message est passé, que des mandats ont été envoyés aux avocats, qu'une quantité ahurissante de dossiers dans des formes juridiques parfaites pour un tribunal ont été envoyés à la Cour pénale internationale. Et donc, pour chaque dossier, il faut apporter des précisions d'ordre juridique absolument indiscutables, des preuves. C'est un vrai travail de professionnel. Pour les marges du retour, les équipes palestiniennes ont mis en place des observateurs et des observatrices, d'ailleurs une grande majorité de femmes, par exemple, à la frontière où les Palestiniens se font tirer dessus par les soldats israéliens alignés qui viennent des gentils kibbutz qui sont derrière, un jeune tombe. Tout de suite, il y a un référent qui se rend sur place, qui enregistre le nom de la personne, qui enregistre les noms des personnes qui sont autour et qui ont été témoins avec leur téléphone. Et après, chaque personne sera appelée et interviewé avec un entretien d'une trentaine de minutes pour recueillir son identité, son témoignage, les photos éventuelles qu'il a pu prendre, les vidéos, et ça fait une personne. S'il y en a 10, vous voyez, ça fait du travail. Donc le résultat, Gilles, 5 jours avant sa mort, puisqu'il est mort d'un cancer, 5 jours avant sa mort, a eu quand même la joie de voir que des mandats d'arrêt avaient été demandés à la Cour et que la Cour avait répondu positivement, aboutissant à ces mandats d'arrêt qui ont été lancés contre messieurs Netanyahou et Galant. Il y a dans ce livre un autre élément qui est, à mon avis, très intéressant, c'est que Fatou Bensouda, avant de lancer sa décision historique, s'est dit « Moi, je ne suis qu'un procureur, je suis toute seule, il faut que je mouille d'une certaine façon les jurés, que je mouille la cour ». Elle avait la possibilité de lancer toute de sa propre initiative et assez rapidement toute une série de procédures, mais elle a demandé avant à la Cour son avis. Et ça, c'est un point très important. Elle a dit, écoutez, moi je considère qu'il y a suffisamment d'éléments indiquant la commission de crimes de guerre, mais il faut bien qu'on enquête sur un territoire donné, et sur une période donnée. Voilà, on ne va pas remonter à l'Antiquité. Et elle a dit, je suggère que l'enquête ait lieu sur le territoire de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et sur le territoire de Gaza. Étant bien entendu, a ajouté Fatou Bensouda dans son mémoire, que ce n'est pas la Cour pénale internationale de dessiner les frontières, mais que ces frontières ne pourront être définies dans le futur que sur la base de l'autodétermination de toutes les populations concernées. Donc ça, c'est extrêmement clair et c'est écrit. Et ce qu'il y a d'absolument lamentable, c'est que personne dans nos médias, en tout cas dans les médias occidentaux, ne précise que la position de la Cour pénale internationale sur la question des frontières. Donc sur le plan juridique, ne disons pas que le droit, ça ne marche pas. Gilles m'a toujours tenu un discours positif et même au pire moment, il nous a toujours dit que des mandats d'arrêt seraient lancés, que c'était une question de temps, mais que c'était inéluctable. Et même avec Karim Khan, qui a pourtant, fauté de bien des façons, aussi bien en matière juridique, en embauchant des soi-disant experts alors qu'il en avait à la Cour pénale, que sur le plan éthique, je ne vous ferai pas un dessin, même Karim Khan, qui avait probablement juré de ne jamais lancer de demande de mandat d'arrêt, même Karim Khan a été obligé de le faire, et Gilles Levert avait raison. Concernant la Cour internationale de justice, là aussi pour vous essayer de vous remonter le moral, vous vous souvenez qu'on avait demandé un avis à la Cour internationale de justice sur la question du mur. Et en 2004, ils ont dit que le mur était illégal. Alors bien entendu, depuis, tout le monde s'est dit « Bah oui, mais le mur, il est toujours là, ça a servi à rien. » Eh bien non, ça a servi à quelque chose, parce que dans un jugement, il y a la décision finale qui est importante, évidemment, mais il y a aussi les attendus, tout ce qui est écrit et qui fait jurisprudence sur lequel on va s'appuyer pour les étapes suivantes. Et dans l'arrêt de 2004 sur le mur, eh bien, la Cour internationale de justice a jugé eh bien, qu'on ne pouvait pas incriminer ou se justifier par autodéfense une opération militaire en dehors de ses frontières. C'est-à-dire que la construction du mur en Cisjordanie ne peut pas être soutenue par la notion d'autodéfense, de la même façon que la guerre préventive, l'attaque préventive, ça ne marche pas en droit. Et donc, cette impossibilité d'arguer de l'autodéfense, du droit de se défendre, eh bien, il a été jugé en 2004. Et lorsque la Cour internationale de justice a été saisie du génocide, eh bien, les avocats israéliens n'ont quasiment pas utilisé l'argument de l'autodéfense, car ils savaient que ça avait déjà été jugé et par la même cour, et que donc, de toute façon, ça ne serait pas pris en compte. Donc, vous voyez que ces différents actes juridiques qui ont lieu année après année, eh bien, aboutissent à une situation où vous avez un chef d'État qui est soumis à un mandat d'arrêt international, et où vous avez d'autres mandats d'arrêt qui pourront être lancés, et donc à une situation de pression très importante, et qui peut d'ailleurs, d'une certaine façon, d'ailleurs, expliquer la réaction meurtrière, hystérique, sadique des dirigeants israéliens. Donc ça, c'est la partie juridique. Je vous parle de mon dernier livre, le Cheikh Yassine. Alors, le Cheikh Yassine, c'est un mot que, un peu comme islam politique, frère musulman, vous voyez qu'on hésite toujours à prononcer. Alors, moi, je crois qu'on hésite à prononcer un mot. C'est intéressant de l'étudier, de voir ce qu'il y a derrière, d'aller rechercher objectivement. D'autres moments très intéressants, ce sont les rapports entre le Cheikh Yassine et Yasser Arafat. Et on s'aperçoit qu'il y avait entre les deux une estime réciproque absolument indiscutable et qui est prouvée par les faits. Et j'ai recueilli un témoignage très intéressant qui est celui de Imad El Falouji, qui a été éduqué à la façon du Cheikh Yassine, qui est un des jeunes qui grenouillait autour de lui. Le Cheikh Yassine était un enseignant et il disait, bon, on a essayé les fédayines de faire des coups, d'aller à l'extérieur, en Jordanie, d'aller faire des incursions, etc. À chaque fois, ils se sont fait ratatiner. La Jordanie va finir par en avoir marre. Ils vont se faire balancer. Effectivement, ils ont été balancés. Après, ils étaient au Liban. Ils ont continué. Les Israéliens ont arrosé le Liban de bombardements. Et effectivement, ils ont été jetés hors du Liban. Donc, le Cheikh Yassine disait, il faut qu'on forme une génération. Ça va être une affaire de longue haleine. Il faut qu'on commence par former les esprits. Et à ce moment-là, il faut vraiment bien se mettre dans l'ambiance. C'était après la conquête de 1967. La bande de Gaza était israélienne. L'administration était israélienne, la police était israélienne, les militaires étaient israéliens. Tout était israélien. Et il n'y avait pas que ça. Il y avait quelque chose qui est peut-être plus difficile à percevoir pour nous, c'est-à-dire que les Palestiniens, en particulier du Hamas, eh bien, ont senti que, enfin, le Hamas n'avait pas en tort créé, hein, c'est 1987, mais c'était la Mujama Ismailia, c'est l'ancêtre du Hamas, c'est la même chose. Et ils ont vu arriver des touristes qui arrivaient, on circulait librement, les Palestiniens allaient en Cisjordanie, allaient au nord de l'Israël, revenaient, etc., en venant de Gaza, tout le monde circulait. Alors ils ont vu arriver au début les gens qui venaient faire le marché le jour du Shabbat, parce que c'était moins cher à Gaza, bon. Et puis ils ont vu arriver des gens qui se croyaient un peu tout permis, qui se croyaient chez eux, qui se sont mis sur la plage, en maillot de bain, tout ce que vous voyez. Et ils se sont rendus compte qu'on allait progressivement, que l'une des façons de fonctionner pour normaliser, si on peut dire, les choses, c'était de modifier la société palestinienne, c'est-à-dire de l'occidentaliser à outrance. Et ils ont senti finalement que leurs racines allaient leur échapper. Et c'est donc toute la construction idéologique du Cheikh Yassine, c'est-à-dire parler aux jeunes, les faire aller à la mosquée, leur expliquer quelles sont leurs origines, leur religion, leur philosophie, que sais-je, de façon qu'ils retrouvent leurs racines et qu'ils puissent rejeter cette occidentalisation forcée qu'on était en train de leur imposer. Et vous avez sûrement entendu dans la littérature caniveau depuis 18 mois, eh bien, parler de Yahya Sinwar, le boucher de Khan Younis. Voyez. Alors ça, c'est une légende absolue. D'abord parce que Yahya Sinwar, à l'époque il a quand même passé la plus grande partie de sa vie en prison. Bon. Et deuxièmement, Yahya Sinwar a été condamné par un tribunal militaire israélien en 1988 pour l'assassinat de 4 espions palestiniens. Voilà. Donc, il y a même eu des déclarations faites par les responsables du Shin Bet. C'est le Shin Bet, c'est pas des rigolos, ils assassinent à gauche, à droite quand on leur demande, mais on est frappé quand même et jusqu'aujourd'hui pour voir finalement que dans cet état militarisé au maximum, c'est souvent la voix du Shin Bet qui est la plus raisonnable. Et vous le savez que ces derniers jours, eh bien, des responsables du Shin Bet ont démissionné, ont protesté, etc., contre la politique suicidaire qui était menée par M. Netanyahou. Et donc, même les responsables du Shin Bet ont dit que ça a été Yahya Sinwar n'a jamais assassiné un seul juif israélien, ce qui est vrai. Il y avait un sujet dont je voulais vous effleurer. J'ai entendu ces jours-ci une discussion qui n'était pas très bonne lorsqu'on demandait à quelqu'un très honorablement connu et qui disait, à chaque fois qu'on m'interviewe, pour le préciser, c'est Yanis Varoufakis, hein, le grec. Il disait, à chaque fois qu'un journaliste vient me demander, il me demande, première question, est-ce que vous reconnaissez le droit d'Israël, le droit d'existence de l'État d'Israël? Et Varoufakis est parti dans des explications pour expliquer que cette question n'était pas bonne. Mais je pense que cette question est intéressante. Et si on vous la pose, il y a des réponses à apporter. Le droit à l'existence de l'État d'Israël, déjà, dans une phrase très très courte, il y a deux choses qui sont complètement contradictoires. Le droit, c'est le droit international qui s'impose à tous les droits et qui est extrêmement précis. Et puis l'État d'Israël qui s'est construit complètement en dehors du droit. La première chose, c'est quelle est la notion d'État ? La notion d'État, c'est une notion qui est une notion politique, qui est enseigné depuis plusieurs siècles même, et récemment dans les instituts d'études politiques, on dit un État, ben c'est un territoire donné, hein, pas forcément une continuité territoriale, j'ai entendu ça ces jours-ci, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin d'une continuité, un territoire donné, précis, que tout le monde peut relever sur une carte. Une population donnée, et cette population décide de se plier à une loi commune. D'une certaine façon, c'est le début de la prédominance, de la prééminence du droit global, de l'intérêt global par rapport à l'intérêt particulier. On décide qu'on va faire des lois et tout le monde va les appliquer. Pour faire respecter ces lois, une police, une seule, le monopole de la police, le monopole de la violence volontaire, et des frontières donc qui sont un territoire qui est donné avec une armée pour le rôle exclusif de défendre ces frontières. Donc c'est ça un État. Et régulièrement, on confond la notion d'État avec la reconnaissance par l'ONU d'un État. Et l'ONU n'a jamais créé l'État d'Israël, comme l'a dit celui qui se veut notre président. L'ONU n'a jamais créé un État, n'a jamais eu le droit de défaire un État. Et l'ONU a proposé, c'était une proposition en 1948, un plan de partage. Et un plan de partage, ça veut dire qu'il y a quelque chose à partager. Et c'était le plan de partage de la Palestine. La Palestine dont les critères étatiques, entre parenthèses, remontent à 3000 ans. Il y a 3000 ans, il y avait des villes-États, Ashkelon, Gaza, c'était des villes-États. C'était à l'intérieur de la ville, on avait décidé de se soumettre à une loi commune avec des délimitations, un territoire et une police pour faire respecter cette loi. Et puis, il y a 5 villes-États qui ont décidé de s'associer. Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gat. La Pentapole, les 5 villes-États. Et ces 5 villes-États se sont appelées Palestine, Philistia. Donc, vous voyez que ce n'est pas un mythe. L'histoire de la Palestine, en tant qu'État, elle remonte à 3000 ans. L'histoire de l'État moderne de Palestine, eh bien, il remonte au démantèlement de l'Empire ottoman. Avant, il y avait une Palestine avec un territoire extrêmement précis. Toutes les cartes en font état. Et puis, au démantèlement de l'Empire ottoman, eh bien, on a divisé l'Empire ottoman en un certain nombre d'États. Et ces États, d'ailleurs, ont dû payer la dette ottomane. La Palestine a payé une partie de la dette ottomane. Et les critères étatiques se sont enrichis en ce qui concerne la Palestine d'un certain nombre de signes indiscutables d'étatisme, en particulier une monnaie palestinienne, des passeports palestiniens, une continuité juridique et également des accords internationaux. L'une des caractéristiques des États modernes, c'est de pratiquer des accords, de signer des accords d'État à État. Et Gilles De Vert m'a trouvé une quinzaine d'accords internationaux qui ont été signés entre l'État palestinien de 1922 et un certain nombre de pays, dont d'ailleurs la Grande-Bretagne. C'est-à-dire que la puissance mandataire qui avait un certain nombre de responsabilités selon la Société des Nations, eh bien, a signé des accords internationaux avec la Palestine. Et d'ailleurs, il y a même des accords qui ont été signés. Alors là, ça me remonte en mémoire, entre Israël et un certain nombre de structures où ces accords prévoient qu'ils ne s'appliquent pas aux territoires occupés. Israël, aujourd'hui, a signé des accords qui ne s'appliquent pas aux territoires occupés. Et ils ont signé, vous voyez. Bon. Donc, quand on va gratter un petit peu dans le droit, on trouve beaucoup de choses réconfortantes d'une certaine façon. Alors, le droit à l'existence de l'État d'Israël, eh bien, c'est évidemment une très mauvaise question, puisqu'on associe dans la même phrase deux choses strictement antinomiques, qui sont le droit et qui sont l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas une bonne question. Par contre, on peut transformer cette question en une question beaucoup plus intéressante, et je dirais même positive, qui est de dire, eh bien, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'Israël entre dans le droit ? Et là, la question est complètement retournée et on s'aperçoit il faudrait qu'il y ait de l'autodétermination, il faudrait qu'il y ait le droit égal pour tous, il faudrait que les frontières soient connues et reconnues, et il faudrait, etc., etc. Alors, la situation aujourd'hui, pour en terminer, eh bien, vous savez qu'elle est. Elle est dramatique. J'ai encore deux personnes que je connaissais qui ont été tuées cette nuit. Et donc, on est tous très, très, très affectés, évidemment. Il n'empêche que le 7 octobre, pour la première fois, les Palestiniens ont lancé une attaque de type militaire frontal vis-à-vis de la puissance occupante. Ils se sont lancés dans cette affaire avec 3 objectifs. Le premier objectif, c'était de faire remonter à la surface de la conscience mondiale et internationale la question palestinienne, de faire qu'on cesse de considérer que l'affaire était enterrée, on n'entendait plus parler, etc. Cet objectif a été atteint, puisque vous savez que 143 pays ont reconnu, sauf la France, ont reconnu l'État de Palestine. L'immense majorité de la population mondiale, dont une bonne partie d'ailleurs en 1948 était une population colonisée, c'est-à-dire ne votait pas aux Nations Unies, et bien que la plus grande partie de la population mondiale soutient. Dans les pays qui continuent à tenir à bout de bras Israël, le principal, ce sont évidemment les États-Unis avec qui soutiennent Israël un peu comme un placenta avec un cordon ombilical qui irait jusqu'à Washington, vous voyez, C'est-à-dire que malgré la tentative d'implantation dans la matrice du Proche-Orient de l'État israélien, eh bien, tout ce qui l'alimente eh bien, dépend des États-Unis. Donc c'est une position d'une fragilité extrême. Et ces États-Unis, eh bien, on le voit à travers les statistiques, ça a été paradoxalement l'un des pays où les mouvements des étudiants, des universités, ont été les plus puissants. Et ces étudiants, ces universités, ce sont les futures élites, entre guillemets, c'est ceux qui demain vont décider de la politique. Et on voit aussi dans les sondages en fonction de l'âge des Américains que cette espèce de soutien complètement irresponsable à un État génocidaire eh bien, ne durera pas. Voyez. Donc finalement, ce premier objectif des Palestiniens, de toutes les factions qui ont participé, pas seulement le Hamas, il y a même le Fatah qui a participé, le FPLP et d'autres, eh bien, ce premier objectif de conscientiser finalement et de dire la question palestinienne, vous n'aurez pas la paix tant que la question palestinienne ne sera pas réglée. Le Proche-Orient ne sera pas calme tant que... etc. Donc ça, ce premier objectif a été obtenu. Le deuxième objectif, c'était eh bien, d'obtenir un échange de prisonniers, c'est-à-dire de faire des prisonniers, ce qui est un crime de guerre quand il s'agit des civils. Mais là encore, ce sera encore aux juges des tribunaux internationaux de déterminer le statut de qui était soldat, réserviste, etc. Ça sera aussi la décision des tribunaux internationaux de dire qui a tué le 7 octobre telle ou telle personne. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, sera très difficile à démontrer à la face du monde, puisqu'on sait que les scènes de crime ont été immédiatement modifiées, détruites en partie, et donc une enquête sera nécessaire pendant très, très longtemps de façon à déterminer tout ce qui s'est passé le 7 octobre. En tout cas, les prisonniers ont été faits et le résultat, eh bien, c'est qu'un certain nombre, près de 2000 prisonniers pour l'instant, de longue peine, ont été libérés. Alors ça, on n'en parle pas évidemment dans nos médias, mais ce sont des milliers de familles qui ont vu revenir à la maison eh bien, un père, une mère ou un fils ou une fille. Et ça, sur le moral, si on peut parler encore du moral des Palestiniens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le troisième objectif, c'était de montrer que malgré l'asymétrie des forces en présence, malgré l'asymétrie des armes, des systèmes de renseignement, eh bien, un groupe bien formé et surtout bien très motivé de quelques milliers de personnes, de combattants, était capable de tenir pendant 18 mois face à la plus grande puissance militaire mondiale qui est la puissance américaine. Bien entendu, les responsables du Hamas n'avaient pas imaginé que les Américains allaient continuer à fournir des munitions jusqu'aujourd'hui. Les dernières livraisons qui ont eu lieu, ça a été 1800 bombes d'une tonne. On sait qu'une bombe d'une tonne, ça tue 10 personnes en moyenne. Vous voyez, hein, les 400 morts de cette nuit, eh bien, c'est quelques bombes d'une tonne qui sont tombées. Vous voyez. Donc personne, et notamment les dirigeants du Hamas, n'avaient prévu que les Américains allaient continuer à abonder et abonder et abonder. Israël est une puissance qui a de grandes capacités de construction d'armes, de renseignement, d'outils de surveillance, mais aucune capacité de production de munitions. Ils n'ont ni la technologie, ni les ingénieurs, ni les matières premières. Donc, ils sont complètement dépendants des États-Unis pour l'abonnement, pour l'approvisionnement en munitions. Et donc, c'est ça qui fait que nous en sommes de la situation aujourd'hui. Mais objectivement, les trois principaux objectifs du Hamas ont été atteints. Pour le reste, nous verrons. La da 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 da
C'était Histoire de Palestine. Vous avez entendu des extraits de la conférence du professeur et chirurgien Christophe Oberlin. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une autre émission sur la Palestine. Vous trouverez sur le site de Radio Larzac les titres des derniers ouvrages de Christophe Oberlin.
آه يا حلو ويا مسلين يا اللي بنار الهجر كوين آه يا حلو ويا مسلين يا اللي بنار الهجر كوين إلا المدام يا جميل وسقين يا عين
Let it Ma